Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons lire quelques textes qui seront aussi des appuis pour la prédication de tout à l'heure. Et le premier texte se trouve dans le premier livre de la Bible, dans Genèse. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Cela se passe dans le jardin d'Éden, et donc l'Éternel parle ici à Adam. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce premier texte. Un deuxième, c'est le texte dans Romains, Romains 5 et le verset 12, où il nous est dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Revenons un peu en arrière dans ce même livre de Romains, au chapitre 3, le verset 23 et 24. « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Et nous allons maintenant dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse 22, les versets 1 à 5. Donc c'est l'ange qui montre ici à Jean. Il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom seront sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde ? Il y a déjà une chose que je peux vous dire qui ne tourne pas rond dans le monde, c'est que livrés à nos propres capacités limitées, nous sommes incapables de saisir les vérités du Dieu illimité. Nous comptons donc sur l'œuvre de Dieu ce matin pour saisir, pour comprendre ce que l'Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde ? La guerre nucléaire est à nouveau à la une avec la Corée du Nord. Le terrorisme plus vivant que jamais avec l'EI par exemple. Les injustices sociales, les inégalités de moyens, ou même la fête des voisins qui ne me laisse pas dormir. Quelque chose ne tourne pas rond. D'où ne vient pas le problème ? Ça sera notre premier point. D'où ne vient pas le problème ? On verra ça dans un premier temps. Ensuite, nous nous demanderons, mais qu'est-ce qui nous montre que l'homme cherche quelque chose de meilleur ? Qu'est-ce qui nous montre que l'homme cherche quelque chose de meilleur ? Et nous prendrons ensuite le temps pour comprendre d'où vient le problème. Et ce dernier point sera donc intitulé « Il existe une explication ». Il existe une explication. Mais commençons par ce premier point, donc quelque chose ne tourne pas rond, mais d'où ne vient pas le problème ? Connaissez-vous, ça vous êtes là, connaissez-vous un système politique qui donne satisfaction absolument à tout le monde pendant longtemps ? Connaissez-vous un système politique qui donne satisfaction absolument à tout le monde pendant longtemps ? Eh bien, il n'y a pas besoin de faire de grandes études politiques pour voir que quelque chose ne tourne pas rond dans tous les gouvernements du monde. Est-ce que cette chose qui ne tourne pas rond serait le système politique ? Eh bien, certains le disent et appellent à toutes sortes de révolutions. Ils croient à des illusions et vendent de l'utopie. Mais lisez un peu l'histoire et vous comprendrez que ce qui a été testé n'a jamais amené au monde meilleur promis. Et tout ce qui a testé, tout ce qu'on a testé, en fait, a déjà été essayé dans le passé. Alors, si ce n'est pas le système politique lui-même qui en est la cause, serait-ce le manque de moyens? Le manque de moyens? Si nous avions plus de moyens financiers, intellectuels et de bonne volonté, tout tournerait rond, non? Mais c'est étonnant. Parce que dans un pays comme la Suisse, où nous avons des moyens financiers importants, où le niveau de formation intellectuelle est développé et où le nombre de bénévoles est impressionnant, nous sommes un des pays où il y a le plus de suicides au monde, et particulièrement parmi les jeunes. Ce n'est donc pas le manque de moyens qui fait que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas le manque de moyens qui fait que les choses ne tournent pas rond. Ah mais j'y pense, en fait, c'est peut-être simplement parce qu'on n'a pas assez de temps. Enfin, je ne sais pas vous, mais souvent on est sans je n'ai pas assez de temps. Si nous avions plus de temps, tout irait mieux. Peut-être, on va réfléchir un petit coup là. Vous, est-ce que vous vous rappelez de votre dernier jour de congé ou de vos dernières vacances où vous aviez du temps? C'était le paradis, non? Le paradis qui vous a tellement comblé que vous aimeriez vivre tout le temps comme ça. Vraiment? Une parfaite harmonie avec vos proches? Aucune frustration? Un repos sans fatigue ni maladie? Aucune mauvaise pensée ni mauvais désir? Vraiment? Ce n'est pas le temps supplémentaire qui résoudrait tout. Ce n'est pas le temps supplémentaire qui résoudrait tout. Attends, il y a encore autre chose. Il y a une phrase que j'ai trop entendue, mais c'est vrai que je suis aussi tenté parfois d'utiliser. De mon temps. De mon temps. En fait, ce qui ne tourne pas rond, c'est d'être dans le mauvais siècle. Il suffirait de revenir en arrière, lors de ma glorieuse jeunesse, et tout irait mieux. Vraiment? Vous seriez prêt à vivre une éternité dans le contexte de votre bon vieux temps que vous avez idéalisé? N'y avait-il vraiment pas de problème? Tous les jeux n'étaient-ils vraiment si respectueux que cela? Tout était-il si parfait? Et vous-même, n'avez-vous fait que le bien? Vous savez, un texte de l'Ecclésiaste parle de cette mauvaise habitude de parler du bon vieux temps avec regret. Voici ce qui est dit dans Ecclésiaste 7, verset 10. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais voilà, vous le découvrez maintenant. Où il est dit, « Ne dis pas, d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux-ci, car ta question ne proviendrait pas de la sagesse. » J'ouvre une petite parenthèse ici, pour vous lire une méditation à propos de ce passage écrite il y a 10 ans. La voici. Le regard vers le passé est bien souvent empreint de nostalgie. Quand j'étais jeune, quand il y avait ceci ou cela, le regard vers le passé est souvent idéalisé. Si seulement c'était encore comme cela aujourd'hui. Le regard vers le passé, comparant l'état actuel avec l'état d'hier, n'est pas à faire selon la sagesse biblique. Se projeter dans le passé, tout comme dans l'avenir, pour se plaindre d'aujourd'hui, ne provient pas de la sagesse. Car la sagesse nous invite à vivre maintenant. Hier est passé, tu ne peux rien y changer. Demain n'est pas encore là, alors vis maintenant. Ne vous appuyez pas sur votre passé, mais appuyez-vous sur Jésus-Christ, qui a au présent le pouvoir de pardonner les péchés. Combien souvent notre nostalgie, notre idéalisme nous bloque et nous arrête dans l'élan de nos cœurs pour vivre maintenant. Et voici une prière, je te prie Seigneur de nous donner la sagesse de voir comment maintenant est un moment privilégié, car nous pouvons nous approcher de Dieu en Jésus-Christ. Délivre-nous de la lamentation soulevée par notre vision du passé comparée à la vision de l'actuel. Que même si tout change à nos yeux sur cette terre, nous puissions voir ta présence maintenant, ce qui est un précieux privilège. Je referme la parenthèse, jusqu'ici la méditation. Mais nous comprenons que le problème ne vient pas du fait que nous ne vivons plus dans le bon vieux temps de notre jeunesse. Le problème ne vient pas de là. On pourrait continuer pour voir différents éléments. Comme dans un aquarium, nous pourrions y mettre plus de plantes, plus de nourriture, plus de poissons, plus d'oxygène, mais rien de tout cela ne donnera la liberté de l'océan. Rien. Certains poissons s'accommodent à leur cage humide, d'autres cherchent par tous les moyens à en sortir, d'autres encore se laissent mourir. Au fond, tous savent quelque part qu'ils ne sont pas dans leur environnement naturel et qu'il y a mieux. Il en est de même pour l'homme, qui est consciemment, ou même plus souvent inconsciemment, prêt à chercher quelque chose de meilleur, parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de meilleur. Et cela nous amène au deuxième point. Qu'est-ce qui nous montre que l'homme cherche quelque chose de meilleur? C'est de l'observation que nous allons faire un peu maintenant. Eh bien, nous constatons autour de nous que tout le monde a une notion du bien et du mal. Regardez autour de vous. Il y a une notion du bien et du mal. Je vais donner trois exemples, juste pour qu'on puisse bien le saisir. Les pensées mauvaises sur les autres est commune à chacun. Ça, c'est quasiment accepté, ou excusé. On ne voit pas forcément le bien ou le mal. Mais si quelqu'un commet un meurtre, tout le monde est horrifié. C'est mal. Et en fait, c'est bien de ne pas le faire. Vous savez, deuxième exemple, il y a actuellement une grande tolérance pour l'adultère. Mais c'est intolérable que son conjoint le pratique. C'est mal. C'est bien d'être fidèle. Enfin, de m'être fidèle. Troisième exemple. Des personnes, ou on pourrait dire, personne ne dit toujours la vérité. Et pourtant, tout le monde ne supporte pas qu'on lui mente. C'est mal. C'est bien que l'on me dise toujours la vérité. L'homme cherche ce qui est bien, même s'il ne le pratique pas. Pourquoi veut-il le bien ? Pourquoi ? Deuxième élément qui nous montre cette notion que l'homme cherche quelque chose de meilleur, c'est que l'homme généralement n'aime pas la souffrance. Il fait généralement tout ce qu'il peut pour l'éviter. Alors, il cherche à l'apprivoiser en se faisant souffrir. Mais en fait, pour tous, c'est le même message. La souffrance n'est pas normale. Pourquoi l'homme pense-t-il cela ? Comme la mort n'est pas normale. Pourquoi l'homme pense-t-il cela ? Cela nous montre que l'homme cherche quelque chose de meilleur. Ou troisièmement, n'avez-vous jamais entendu personne qui aimerait vivre dans un paradis? Ou des publicités qui vendent des lieux paradisiaques? Ou passer des vacances de rêve? Pourquoi l'homme cherche-t-il un monde paradisiaque? Pourquoi est-ce que l'homme cherche-t-il ça? Pour illustrer ça, comme un dauphin qui, dans son bassin de captivité, fait des sauts, en imaginant qu'il saute par-dessus les vagues de l'océan ou qu'il fait face aux tempêtes. Il cherche cela parce qu'il a été fait pour vivre dans une plus grande étendue d'eau, de liberté et avec d'autres congénères. Le dauphin n'a pas été créé pour vivre dans un petit bassin. Ce n'est pas naturel. Eh bien, l'homme a aussi été fait pour vivre dans un monde qui est bon et exempt de mal. Et il est bon d'encourager chacun à chercher ce qui est bien, c'est vrai. Mais il ne faut pas se tromper de direction. Un petit poisson de l'aquarium, il pourrait dire, mais j'aimerais bien trouver plus d'eau. Il pourrait sauter dans les WC, mais il périra dans les eaux usagées et chargées de produits toxiques. Non, il ne faut pas se tromper d'endroit. C'est uniquement dans les eaux naturelles et faites pour lui qu'il sera réellement bien. Nous avons donc besoin d'être éclairés. Et nous avons déjà vu dans des prédications précédentes que Dieu nous a donné une révélation, la Bible, qui parle avec exactitude de tout ce que l'on peut observer. Nous pouvons donc aussi lui faire confiance pour ce que nous ne pouvons pas vérifier. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond ? Pourquoi l'homme cherche-t-il quelque chose de meilleur ? Eh bien, il existe une explication. C'est notre troisième point. Connaissez-vous une explication cohérente au problème du mal et dans le monde et la réponse à y donner? Il existe beaucoup d'essais de réponses. Mais la seule qui est totalement vraie, cohérente et qui donne un espoir est celle qui vient du seul capable de nous l'expliquer, car il connaît exactement ce qu'il en est. Cette explication se trouve dans la Bible. Le livre absolument particulier est tellement précieux que Dieu s'y révèle et explique notre situation. En fait, un monde meilleur a existé. Un monde meilleur a existé. Et si vous me parlez du bon vieux temps, j'aime répondre oui, avant la chute. Si quelqu'un me parle du bon vieux temps, j'aime bien dire oui, avant la chute, dans le jardin d'Éden. Oui, d'accord, là c'était le bon vieux temps. Le souvenir d'un monde parfait, sans mal, sans douleur, sans mort, est gravé dans le subconscient de chaque être humain. Il y a ce désir qui est là. Et je vais maintenant vous donner en quelques mots le contenu de Genèse 1 à 3, que vous pourrez aller lire dans plus de détails dans une Bible. En fait, le sixième jour de la création, Dieu, par sa parole, a créé Adam en un instant. Il l'a créé à son image. L'homme a le sens de la justice, il aime la vérité, c'est un être relationnel, il est capable de penser conceptuel et il est capable de prendre soin de toute la création. L'homme, contrairement à tous les animaux, est créé à l'image de Dieu et sa vie est sacrée. La mort n'existait pas dans le jardin où Dieu avait placé l'homme et il avait donné de grands privilèges à Adam et Ève, un lieu paradisiaque. Voilà le terme qui revient, mais c'est vrai, c'était un lieu paradisiaque. Le don du travail sans effort ni frustration, la nourriture saine et abondante, la sécurité totale, le mariage parfait, le cycle hebdomadaire avec un septième jour que l'homme consacrait à Dieu. En fait, un lieu de bien-être total et de plaisir sain, inépuisable. Et ce lieu est gravé dans le subconscient de l'homme. Avec ses privilèges, Dieu a également donné une responsabilité, une exigence qui était de lui obéir. Mais en fait, quelle joie d'obéir à celui qui ne demande que ce qui est excellent pour nous, non ? Si quelqu'un vous demande que des bonnes choses, ben ça nous fait plaisir de lui obéir, non ? Ça devrait. Dieu avait placé un arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, afin que l'homme puisse prouver à Dieu qu'il lui obéissait librement et avec plaisir, en ne touchant pas à ce fruit que Dieu lui avait défendu. Voilà pourquoi il y avait cet arbre dans ce jardin, pour que l'homme puisse montrer qu'il lui obéissait librement, avec plaisir. Et ne pas toucher à ce fruit. Un fruit qui amènerait la mort. Vous savez, Dieu avait tout donné à Adam et Ève, sauf... Sauf quoi ? Dieu avait tout donné à Adam et Ève, sauf le mal, la souffrance et la mort. Il ne leur avait pas donné cela. Et il leur a demandé de ne pas désirer ces mauvaises choses, de ne pas y goûter. Adam et Ève avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils vivaient dans une innocence parfaite. Il ne leur manquait rien du tout. Ils étaient en pleine communion avec leur Créateur et ils avaient reçu un avertissement clair face au fruit défendu et ils avaient la liberté de dire non à ce mauvais fruit. Un jardin où il n'y avait que du bien. Un état d'innocence parfait. Et parmi les multitudes de fruits, l'un d'entre eux à ne pas manger, sous peine de mort, de perdre tout le reste. En fait, jusque-là, tout tournait rond dans le monde. Un jardin où il n'y avait que du bien, un état d'innocence parfait, et parmi les multitudes de fruits, juste un d'entre eux à ne pas manger, sous peine de mort, ou de perdre tout le reste. Donc, jusque-là, le monde tournait rond. Malheureusement, il y a un mais. Mais l'incrédulité, qui signifie ne pas croire ce que Dieu dit aux terribles conséquences qu'il annonce, l'orgueil, qui signifie se croire supérieur à Dieu, et l'égoïsme, qui signifie ne pas penser aux autres, penser qu'à soi, ne pas penser aux conséquences que cela pourra avoir sur les autres, ne pas penser au bien que l'on pourrait faire aux autres, etc. L'incrédulité, l'orgueil, l'égoïsme, ont trouvé un chemin d'accès dans le cœur d'Adam et Ève qui pouvait ouvrir ou fermer leur cœur à ces influences. On verra, ce n'est plus notre cas. Mais l'incrédulité, l'orgueil et l'égoïsme ont trouvé un accès dans le cœur d'Adam et Ève qui pouvaient ouvrir ou fermer leur cœur à ces influences. Et ils ont goûté du fruit défendu. Et le monde n'a plus tourné rond depuis lors. Et ils ont goûté au fruit défendu et le monde n'a plus tourné rond depuis lors. Un acte qui semblait anodin. D'accord, manger un fruit paraît anodin. Mais ce ne l'était pas, parce que c'était une rébellion contre Dieu lui-même. En réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, c'est le seul acte de désobéissance que Adam et Ève pouvaient faire. Le seul acte de désobéissance que Adam et Ève pouvaient faire, ils l'ont fait. La nature sainte de l'homme est morte pour laisser place à une nature pécheresse qui conduit à la mort, comme annoncé. La communion avec Dieu est perdue, car il a été rejeté. L'homme s'en est violemment détourné en faisant cet acte qui semble anodin. Le sentiment de culpabilité, la honte inconnue jusqu'alors, sont apparus et seront toujours attachés au péché. Adam et Ève sont chassés du paradis, l'entrée du jardin est gardée et il n'est pas possible d'y retourner. Même si vous faites tous vos efforts pour y parvenir, ce n'est pas possible. C'est fermé. L'entrée du péché dans le monde explique tout le mal, la souffrance et la mort qui existent. L'entrée du péché dans le monde explique tout le mal, la souffrance et la mort qui existent. Voilà pourquoi n'importe quel système politique ne peut fonctionner. Car il est entaché de péché. Voilà pourquoi les moyens illimités ne pourraient donner le bonheur durable et parfait, car ces moyens sont entachés de péché. Voilà pourquoi le temps, même infini, ne peut réparer quoi que ce soit, ou en parenthèse créer quoi que ce soit, ne peut harmoniser les relations ou totalement reposer. Même si vous aviez 1000 heures pour vous reposer, vous ne seriez pas reposé à la fin vraiment, car le temps n'ôte pas le péché. Voilà pourquoi le changement de siècle aussi, en avant ou en arrière, ne peut amener en lui-même un monde meilleur, car le péché traverse l'histoire de l'humanité. La Bible enseigne que le péché a des conséquences sur toute la création. Sur toute la création. Les déséquilibres de la nature ont pour cause le péché de celui qui était censé en prendre soin. L'homme, par le péché originel, a amené la mort et le mal dans le monde. L'homme, depuis lors, pratique le péché qui continue à détraquer tout ce qu'il touche quelque part, que ce soit dans la nature, dans les relations et dans sa mission. Tout ce que le péché touche est détraqué. Et péché, c'est désobéir à la loi de Dieu. En fait, ce n'est pas difficile, qu'est-ce que c'est le péché? Des fois, on se demande, c'est quoi le péché? C'est désobéir à la loi de Dieu. C'est cela, en fait. Et encore aujourd'hui, tout ce que Dieu demande, c'est de ne pas faire le mal, ou de ne faire que le bien, si vous voulez. Encore aujourd'hui. Ce qui mène à la mort et qui cause la souffrance, Dieu n'a jamais demandé et ne demandera jamais de le faire. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, la voix du tentateur qui disait, « A-t-il réellement dit que c'était si mauvais ?» Ne serait-ce pas l'inverse? Car il veut te priver d'un plaisir, de connaissance, de pouvoir. Et par exemple, l'homme va avec une femme mariée à quelqu'un d'autre pour quelques minutes de plaisir éphémère et des années de multiples vies gâchées. Oui, encore aujourd'hui, désobéir à Dieu paraît toujours aussi alléchant, mais en fin de compte, toujours aussi amer et éclaboussant. Encore aujourd'hui. Comme cette magnifique voiture. Alors, si vous aimez les voitures, vous allez comprendre. Si ça ne vous touche pas, ben, essayez d'imaginer. Vous la voyez, une carrosserie de rêve, des courbes parfaites, une peinture reluisante et des jantes juste pas parfaites, quoi. Okay? Une fois entrée, le moteur démarré avec ce son si doux à vos oreilles, cette accélération qui fait augmenter votre adrénaline. Et là, donc en pleine accélération, ou déjà à certaines vitesses, vous constatez qu'il n'y a ni frein ni direction. C'est l'accident assuré. C'est ça le péché. Des promesses qui n'en sont pas. Un plaisir de courte durée et une fin tragique. C'est ça le péché. Lorsque nous péchons, notre mauvaise conscience nous indique que nous devons rendre compte de ce que nous faisons. Et il est intéressant de constater que même lorsque nous péchons de manière cachée, que personne ne nous voit, eh bien on a quand même mauvaise conscience. Alors certains cherchent à éteindre la mauvaise conscience. Mais, peut-être que vous avez déjà essayé de faire ça, mais vous avez un garage qui enfouit, pas possible. Hein, vous arrivez à imaginer ça? Et vous arrivez et vous dites, mais maintenant je vais régler la situation. Je vais éteindre la lumière. Mais ça nettoiera pas le garage. Hein. C'est comme éteindre la mauvaise conscience. Ça n'enlèverait pas le péché. Et mes chers amis, lorsque vous vous trouvez dans des conflits, ne vous trompez pas d'ennemi. Ne vous trompez pas d'ennemi. Ce n'est pas votre conjoint. Ce n'est pas votre chef, vos parents ou vos enfants. Mais le péché, votre ennemi. Nous avons pris du temps ce matin pour réfléchir à ce qui ne tourne pas rond dans le monde. Et nous sommes arrivés à la conclusion, aidés par la révélation de Dieu, que c'est le péché la source du problème. Il me reste encore deux choses à vous dire. La première, c'est une façon de penser à changer. Une façon de penser dans le monde qui n'est pas celle de la parole de Dieu. Et deuxièmement, ce que l'on attend quand même à un moment donné, mais quel est notre espoir face à ce péché, évidemment. Alors commençons par le changement de façon de penser qui peut vraiment changer toute votre manière de voir le monde et d'appréhender les situations. Alors la pensée généralement admise est celle-ci. Nous vivons dans un monde normal et il est anormal d'être malade, d'avoir des malformations, de souffrir, de mourir. Hein, nous vivons dans un monde normal et il est anormal d'être malade, d'avoir des malformations, de souffrir et de mourir. Mais cette pensée n'est pas biblique. Car le monde normal, c'était avant la chute. Et nous vivons après la chute. Voici donc la pensée actuelle correcte. Depuis la chute, nous vivons dans un monde anormal. Depuis la chute, nous vivons dans un monde anormal dans lequel il est normal d'être malade, d'avoir des malformations, de souffrir, de mourir. Vous comprenez? Depuis la chute, nous vivons dans un monde anormal et il est normal d'être malade, d'avoir des malformations, de souffrir et de mourir. Et c'est une grâce d'être en santé, de ne pas avoir de malformations, de ne pas souffrir et de vivre. C'est une grâce. C'est pas normal. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà le mot-clé. Voilà le mot-clé pour la dernière chose que j'avais à vous dire. Quel est donc notre espoir face au péché? Notre espoir est dans une grâce, un don gratuit que nous pourrions recevoir pour nous sortir du péché. Car par nous-mêmes, comme notre nature est touchée par le péché, que l'on transmet même au suivant, nous ne pouvons jamais nous en sortir par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Il nous faut quelqu'un qui soit capable de changer notre nature. Et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en tant qu'homme, ayant parfaitement obéi, est capable de nous donner une vie parfaite. Et il est également capable de payer pour quelqu'un d'autre, parce que lui-même ne doit pas payer pour lui-même. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu créateur, peut changer les cœurs et notre nature. Et il peut satisfaire à toutes les exigences de justice et d'amour qui sont en lui éternelles et infinies de nature. Pour être délivré de la puissance et de la conséquence éternelle du péché, pour être délivré de la puissance et de la conséquence éternelle du péché, il suffit de reconnaître son péché. Oui. C'est vrai, ça fait partie de moi. Il suffit de reconnaître ce péché, de s'en repentir. Je demande pardon, je le regrette, je veux m'en détourner. Et croire que Jésus-Christ a tout accompli pour notre salut. Oui, je le crois, je le reçois, à la main de la foi qui le reçoit. Et c'est ainsi que ce qui ne tourne pas rond dans le monde peut être résolu. Le salut, c'est être réconcilié avec le Créateur, les autres, et soi-même, c'est recevoir un changement de nature, c'est être déclaré juste, c'est recevoir l'amour, la paix, la joie, l'espérance, comme vous ne pourrez jamais en recevoir d'une autre manière. J'aimerais vous laisser avec deux questions et quelques textes de la parole de Dieu. On va dans quelques minutes terminer la prédication, vivre notre journée. Si je venais cet après-midi ou demain vous pose la question, sais-tu ce qui ne tourne pas rond dans le monde? Que répondriez-vous? Voici ce que la Bible dit, Romains 5, 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Voilà le problème dans le monde. Et quelle est la deuxième question? As-tu saisi le salut éternel qui existe? Voici ce que dit la parole de Dieu, quelques textes. Romains 3, qu'on a lu tout à l'heure. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes tous concernés. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Encore deux autres textes. Un autre qui est très connu, qu'on entend souvent peut-être, ou pas, mais que je vous invite à méditer, à comprendre vraiment. Même j'ai vu encore ce matin, sur une voiture, un petit autocollant où c'est écrit Jean 3,16. Ça veut dire quoi pour vous ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Alors là, c'est la question. Est-ce que vous croyez? Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et un dernier passage que j'aimerais nous donner comme encouragement, que nous pouvons aussi donner à d'autres évidemment, c'est Jésus lui-même qui le dit dans Jean 6,37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. C'est une assurance. C'est clair. À tous ceux à qui vous pouvez annoncer l'Évangile, vous pouvez leur dire, Jésus, jamais, 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 ne mettra dehors celui qui vient à lui. Que l'Éternel soit glorifié. Nous allons courtement prier. Éternel, notre Dieu, c'est vrai que lorsque nous regardons les nouvelles, lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons souvent nous poser la question, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce monde? Et en fait, tout le monde est convaincu que quelque chose ne tourne pas rond. J'aimerais te prier, Père, que nous puissions aussi avoir le courage de dire que nous connaissons le seul vrai Dieu, celui qui nous révèle qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le monde. Ce n'est pas que nous avons plus de compétences ou plus d'intelligence, mais tu nous donnes la grâce d'arriver à une source qui s'appelle ta parole, où nous pouvons comprendre que le problème, c'est le péché. Oh, ce terme que l'on n'aime pas entendre ou qu'on ne connaît même plus souvent. Aide-nous, Seigneur, à ne pas l'éviter. Aide-nous, Seigneur, à avoir le courage d'en parler, mais jamais sans l'Évangile. Aide-nous, Seigneur, à avoir aussi cette grâce de dire oui, quelque chose ne tourne pas rond. Mais quand Dieu révèle pourquoi cela ne tourne pas rond, ce n'est pas juste pour nous mettre dans la situation où nous voyons que c'est catastrophique. Non. Dieu le fait pour que nous puissions être délivrés de ce qui fait que le monde ne tourne pas rond. Et j'aimerais, Seigneur, te prier que nous puissions le saisir pleinement. Aide-nous à ne pas non plus confondre les ennemis, à ne pas voir ceux qui sont autour de nous comme des gens qui, premièrement, nous veulent du mal. Non. C'est le péché, notre ennemi. Aide-nous, Seigneur, à le combattre avec tes armes. Et Seigneur, aide-nous à utiliser la première arme contre le péché, qui s'appelle la repentance. Aide-nous à nous en détourner. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous aides. Parce que de nous-mêmes, nous entendons toujours ces paroles. Mais est-ce que c'est vraiment si grave? Mais tu vas perdre quelque chose. Pardonne-nous, Père, de trop souvent encore écouter ce genre de tentation, alors que nous avons déjà expérimenté tant de fois l'erreur de ces paroles tentatrices, destructrices. Oh Seigneur, merci parce que Jésus-Christ est venu et nous délivre du péché et nous permet aussi d'avoir non seulement un regard vers le passé où nous voyons un jardin d'Éden parfait, un lieu paradisiaque, c'est vrai, qui est marqué jusque de notre subconscient, mais d'avoir aussi par cette œuvre de Jésus-Christ un regard vers l'avant pour tous ceux qui croient où nous pourrons vivre réellement dans un lieu totalement parfait, où il y aura une grande différence avec le premier lieu, c'est que plus jamais nous ne pécherons. Eh bien, sois loué et béni dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.